RCF. RCF, il est 19h. Le journal, Grégoire Gindre.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, une mobilisation générale, un sursaut d'autorité. Gabriel Attal promet une réponse avant l'été à ce qu'il appelle l'addiction à la violence. Les précisions dès le début de ce journal. Plus d'une centaine d'otages toujours en captivité à Gaza, 200 jours après l'attaque du Hamas en Israël. Un rassemblement organisé aujourd'hui en soutien aux otages de l'enclave palestinienne. Reportage à Strasbourg à suivre. Et puis dans notre long format du soir, direction les Pays-Bas, troisième épisode de notre série Élections européennes qui doit nous emmener jusqu'au scrutin le 9 juin prochain. C'est en fin d'édition. Cette fois, Gabriel Attal veut en finir avec le pas de vague. Le Premier ministre a déroulé aujourd'hui sa feuille de route contre les violences impliquant des mineurs. Près d'un an après les émeutes et deux semaines après la mort d'un adolescent à Viry-Châtillon lors d'un passage à tabac, Gabriel Attal souhaite un sursaut d'autorité. En déplacement justement dans cette commune endeuillée, le chef du gouvernement a dévoilé une série de propositions réparties en trois volets. De quoi en finir avec les violences des mineurs, Étienne Pépin?
Avant toute condamnation, toute répression, Gabriel Attal souhaite responsabiliser les parents et joue la carte de la prévention. Avant qu'un jeune ne tombe dans la délinquance, nous proposerons aux parents le placement en internat de leur jeune, de quoi freiner les mauvaises fréquentations. Ensuite, dans la droite pensée des travaux post-émeute de juillet dernier, le gouvernement voudrait aussi instaurer des amendes et même des travaux d'intérêt généraux aux parents défaillants. Deuxième volet, le contrôle des réseaux sociaux avec le lancement d'une commission sur la régulation des usages des écrans et une majorité numérique fixée à 15 ans. Le retour de l'autorité à la maison, sur le net, mais aussi à l'école. En cas de violence commise par un collégien lycéen, il pourrait être possible de retirer des points sur son examen du brevet ou du bac avec une mention sur Parcoursup indiquant des perturbations graves dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Enfin, dernier volet, le durcissement de la réponse pénale. Le garde des Sceaux va également réfléchir à la mise en place d'une comparution immédiate devant le tribunal pour les jeunes à partir de 16 ans au lieu de 18 ans.
Merci Étienne. Et la violence en France aussi, mais loin de la métropole, en Guadeloupe. Gérald Darmanin ordonne un couvre-feu à partir de 20h pour les mineurs de Pointe-à-Pitre. Objectif, lutter là aussi contre la délinquance. La mesure effective pendant 2 mois entrera en application à partir du début de semaine prochaine. Drame près d'une école dans le Bas-Rhin. 2 fillettes blessées lors d'une attaque au couteau. L'assaillant, inconnu des services de police, a été interpellé sans résistance cet après-midi. Il n'y a plus aucun danger, assure le cabinet de la préfecture. Un discours pour fixer les grandes orientations européennes. Rendez-vous pris par Emmanuel Macron il y a quelques minutes. Un rendez-vous pour jeudi prochain. Une prise de parole depuis la Sorbonne du chef de l'État. Un petit peu sur le modèle de ce qu'il avait déjà pu faire en septembre 2017. Le chef de l'État qui reçoit demain à l'Élysée le Premier ministre libanais et le commandant en chef de l'armée libanaise. Visite importante dans un contexte de fortes tensions intérieures et régionales au Proche-Orient. Eux aussi étaient mobilisés aujourd'hui, des manifestants devant le Conseil de l'Europe pour rappeler le sort des otages israéliens. Enlevés depuis le 7 octobre, ils seraient une centaine à être encore en captivité. Organisé par le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, ce rassemblement intervient quelques heures avant un débat au sein de l'institution européenne au sujet justement de la situation à Gaza. Reportage signé Léa Bouquet, RCF Alsace.
Personne emblématique d'ailleurs des otages. Ouais. On a tous vu sa vidéo où elle était arrachée. C'est effroyable.
Pierre Haas, délégué régional du CRIF, distribue des photos d'otages à tous les participants du rassemblement. Ils sont aujourd'hui une soixantaine devant le Conseil de l'Europe pour ne pas oublier le sort de ces civils israéliens.
Nous voulons par cette action rappeler le sort de ces êtres humains qui ont été raflés et qui sont depuis plus de 6 mois dans des situations effroyables aux mains d'une organisation terroriste qui ne leur laisse aucun contact avec la Croix-Rouge ou avec un organisme d'aide. On ne sait pas du tout où ils sont et on est très inquiets.
Ilana, d'origine israélienne, s'émeut et s'indigne devant l'absence de réponse de la part des institutions.
C'est comme la famille, les otages, je connais les familles qui ont des proches là. là-bas. Alors c'est une catastrophe et personne ne s'occupe de ça. Par exemple, il y a 3 Français, personne ne dit quelque chose.
Mais pour Harold Abraham Weil, le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, la question des otages n'est pas seulement une préoccupation juive.
Ce n'est pas non plus qu'une question juive, c'est très important aussi de le dire. On a aujourd'hui dans les personnes qui sont présentes des gens qui sont extérieurs à la communauté juive. La question des otages est une question tout simplement d'humanité.
Tous attendent du Conseil de l'Europe une motion contre l'organisation terroriste du Hamas et une libération de ses otages.
Sujet signé Léa Bouquet, RCF Alsace. Et du sport pour terminer, du football, suite et fin des matchs retour de Coupe d'Europe. L'OM va tenter de renverser le Benfica en Europa League. Les Olympiens battus 2-1 à l'aller par les Portugais. Dans notre long format du soir, on poursuit notre série hebdomadaire qui doit nous emmener jusqu'aux élections européennes du 9 juin. Et ce matin, zoom sur l'un des pays fondateurs de l'Union européenne, les Pays-Bas. Bonsoir Margot Emmerick.
Bonsoir Grégoire, bonsoir à toutes et à tous.
Alors, les Pays-Bas ont joué un rôle central depuis le début de la construction européenne, mais le pays est aujourd'hui traversé par une crise politique sans précédent.
Oui, à tel point que le pays n'a tout bonnement aucun gouvernement, et ce, eh bien, depuis le mois de juillet, depuis que le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a décidé de démissionner face à la difficulté de trouver un accord sur l'accueil des réfugiés dans son pays. Sauf que, 7 mois plus tard, Mark Rutte est toujours Premier ministre. Alors, ce n'est pas qu'il refuse de lâcher le pouvoir, mais les élections législatives anticipées au mois de novembre ont vraiment bouleversé le paysage politique en portant au pouvoir le PVV, le Parti de la Liberté, un parti d'extrême droite, présidé par Geert Wilders. Et depuis, eh bien, aucune coalition de gouvernement ne parvient à se former. C'est ce que nous explique Christophe De Vogde, historien, auteur d'une note sur la victoire populiste aux Pays-Bas.
Cette victoire en novembre dernier a donné l'ouverture à des négociations de coalition qui sont extrêmement difficiles et qui ont connu une nouvelle crise. Je vous passe tous les rebondissements avant-hier et on en est là, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas s'il y aura une coalition avec ce parti populiste qui a gagné les élections. En général, dans des démocraties parlementaires comme ça, c'est le parti qui a gagné les élections qui donne le Premier ministre, voyez. Mais là, c'est déjà acquis que ce ne sera pas lui, parce que les autres partis ne veulent pas que ce soit lui, avec évidemment toujours, aux Pays-Bas comme ailleurs, le côté un peu tabou d'une alliance avec l'extrême droite, entre guillemets, parce qu'on peut discuter éternellement sur ce que ce mot-là veut dire selon les pays et selon les partis. Lui, il est quand même très anti-islam tout court.
Et c'est vrai que cette percée du PVV était assez inattendue, hein, aux Pays-Bas. Non pas que l'extrême droite était absente du paysage politique, mais le parti de Wilders n'était jamais donné comme gagnant dans les sondages. Certains observateurs de la vie politique néerlandaise y voient alors les conséquences d'une stratégie de dédiabolisation qui se rapproche de celle de Marine Le Pen en France, même si le Parti de la Liberté continue fortement de cliver, surtout sur les questions de religion. Écoutez Benjamin Biard, chercheur en sciences politiques et spécialiste de l'extrême droite à l'Université de Louvain.
L'image de l'extrême droite reste très connotée, particulièrement parce que Geert Wilders et le PVV, son parti, ont entretenu pendant des années, et encore aujourd'hui, même s'il le met davantage en sourdine depuis quelques mois, des positionnements très durs. Par exemple, par rapport à l'islam, qu'il ne considère pas comme étant une religion, mais davantage une idéologie totalitaire, pour ne prendre que cette illustration, ce qui implique la volonté d'interdire le port du voile, d'interdire le Coran aussi, par exemple. D'autres propositions par rapport à l'Union européenne et à la volonté de faire sortir derrière les Pays-Bas de l'Union européenne. Là aussi, une proposition particulièrement connotée et qui peut rappeler aux uns et aux autres qu'il ne s'agit pas d'une formation comme les autres, mais bien d'un parti d'extrême droite.
Alors justement, Margot, est-ce que la sortie de l'Union européenne est vraiment un sujet aux Pays-Bas ?
Vous l'avez entendu, hein, c'est en tout cas un thème qui a longtemps été porté par l'extrême droite. Aux Pays-Bas, on a même vu planer la possibilité d'un exit dans la lignée du Brexit. Ces dernières années, le pays a connu une très forte crise, notamment dans le milieu agricole, et une demande forte de protectionnisme de la part de ce secteur. Et c'est quelque chose qui peut vraiment surprendre dans un pays aussi libéral. Je le redis, c'est parmi les 6 pays fondateurs celui qui a toujours adopté une position très pragmatique, en faveur du marché, en faveur de la fameuse règle des 3% de déficit. Et puis les Pays-Bas accueillent aussi plusieurs institutions européennes très symboliques comme la Cour de justice. Pour autant, d'après Benjamin Biard, cette percée de l'extrême droite n'est pas antinomique avec l'histoire européenne.
Alors, ce n'est pas antinomique, c'est une surprise si on veut. On en a une au mois de septembre 2022 en Italie aussi, autre État fondateur de l'Union européenne, où l'extrême droite ne s'est pas contentée d'enregistrer de bonnes performances, mais aussi de se hisser au pouvoir. Aux Pays-Bas, on a là aussi une formation clairement qui prône la sortie des Pays-Bas de l'Union européenne, même si on sait bien que ce n'est pas la thématique aujourd'hui qui se situe au centre des négociations en vue de former un gouvernement, parce que c'est une thématique particulièrement forte que ne peuvent partager d'autres formations politiques, notamment de droite, mais aussi parce qu'aujourd'hui, quelques années après le Brexit, on sent bien que cet élan souverainiste qui s'était exprimé dans un tas de pays, la France, l'Italie, les Pays-Bas par exemple, tend certainement pas à disparaître, mais à s'essouffler au moins partiellement. Et ce n'est plus une thématique qui permet de se distinguer de manière prioritaire par rapport à d'autres partis.
Et si l'extrême droite a dû mettre un peu d'eau dans son vin, il faut le dire, c'est bien parce que le pays entretient des liens étroits avec l'Union européenne, Margot.
Oui, c'est en tout cas l'analyse de l'historien Christophe De Vogde, pour qui les Pays-Bas n'ont de petit que la taille.
Alors d'abord, comme vous le rappelez très justement, pays fondateur, donc il a une sorte d'aura morale et de responsabilité morale particulière. Et d'autre part, c'est un faux petit pays, les Pays-Bas, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a 18 millions d'habitants, ce qui est beaucoup plus que la Hongrie ou que la Belgique ou que la Suède. Et surtout, c'est une énorme puissance économique. Hein. Ce tout petit pays, figurez-vous, est le deuxième exportateur agricole dans le monde, devant la France. Hein. Et il est la cinquième économie de l'Union. Vous voyez, donc il vient juste après l'Espagne. Donc c'est un pays qui pèse lourd. En plus, il pèse très lourd parce que c'est un grand centre, c'est le plus grand port d'Europe de très loin, Rotterdam, et c'est un des grands centres bancaires de l'Europe. Et
voilà ce qu'on peut dire pour conclure ce dossier, Grégoire, c'est que comme souvent, ce scrutin européen risque bien d'avoir un retentissement avant tout national, surtout si aucune coalition n'arrive à se former d'ici le 9 juin. Il y aura en tout cas toutes les raisons de se pencher sur ce qui va se passer chez nos voisins néerlandais.
Évidemment, on suivra ça. Immense merci Margot Emmerich. L'ensemble de la série Élections européennes est à retrouver sur le site internet rcf.fr. Merci à toutes et à tous de nous en avoir suivis. C'est la fin de cette édition. L'information revient demain matin, 6h30 sur RCF. Très bonne soirée.